Les nuits de France Culture, une nuit italienne et donc romaine, comme à l'instant la conférence de Jean d'Ormesson l'indiquait. Mais toute la botte italienne est bien à l'honneur cette nuit, puisque la Tribune de Paris donnait en 1954 sur la chaîne parisienne quelques conseils aux Français qui partaient en vacances en Italie, par la voix de Françoise Giroud, mais celle aussi de Cécile Saint-Laurent, de Félicien Marceau, Michel Déon et Max Favalelli. Puisqu'aussi Jacques Pauliac et Hubert Neumann, en 1949, sur la chaîne nationale, donnaient à entendre des images sonores d'Italie, et donc de régions très variées de l'Italie. Puisque Bernardo Bertolucci, disparu l'an dernier à Rome, parlait de Rome à Roger Pilaudin en 1972 sur France Culture. À venir aussi une balade en Émilie-Romagne, dans De bouche à oreille, l'émission gastronomique de René Elkaïm-Bollinger, puis Une vie, une œuvre consacrée à Luigi Pirandello, et une matinée des autres intitulée Femmes de Sardaigne. Bonsoir Alexandre Grandazzi.
Bonsoir Philippe Garbi.
Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, ancien membre de l'École française de Rome. Vous êtes professeur à l'Université Sorbonne, où vous enseignez la littérature latine et la civilisation romaine. Alors, vous auriez pu publier chez Perrin, par exemple, l'éditeur Perrin, une volumineuse biographie de César, d'Auguste, de Cicéron, de Marc-Antoine, de Pompée, de Sylla, de Caton, enfin de tant d'autres, Catulle, voilà. Mais c'était une ville, à la ville, il faut dire, que vous avez consacré votre dernier ouvrage publié chez Perrin. Urbs, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste. Alors, nous venons d'entendre la conférence de Jean d'Ormesson. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion que je rappelle aux auditeurs ? Rome tend à l'histoire qui passe un incomparable miroir, et dans ce miroir viennent se refléter les mœurs, les personnalités, les civilisations et les religions. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que les reflets finissent par faire partie du miroir. Alors vous, de quel miroir vous êtes-vous servi dans cette ville de Rome, et à quelle époque et combien d'années, depuis combien de temps êtes-vous là à travailler sur Urbs, U-R-B-S, la ville, Alexandre Grandazzi?
Eh bien, je dirais que oui, je peux reprendre cette image de l'histoire comme miroir qu'employait avec tant de virtuosité et de clarté en même temps Jean d'Ormesson. Et c'est vrai que pour l'histoire romaine, l'image qu'on voit dans le miroir, le reflet a fini par faire partie du miroir. Il a voulu dire par là, je pense, que l'histoire romaine a une valeur exemplaire, une valeur emblématique. Et vous avez évoqué la possibilité pour un latiniste et un historien de Rome comme je suis d'écrire une biographie, une de plus, mais pourquoi pas, de César, d'Auguste, de Pompée. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que dans les noms que vous avez donnés, plusieurs m'ont été proposés par mon éditeur. Et j'ai choisi, vous l'avez dit, j'ai choisi ce que j'ai appelé, je crois dans l'introduction, une forme de biographie urbaine. Alors qu'est-ce qui m'a amené à ce choix qui n'est pas des plus faciles, parce que la vie d'un individu, c'est quelques décennies. La vie d'une ville, je l'ai prise sur... Je la commence très tôt, hein, il faut dire, mais je l'ai prise sur plus d'un millénaire, et en fait, beaucoup plus, puisque je la commence bien avant 753, avant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à ce choix de décrire la vie d'une ville qui s'est voulu la ville, qui pour nous encore le reste, l'image même de la ville, Urbs, qui a donné urbain, urbanisme, etc. Eh bien, je dirais que c'est la conjonction de trois facteurs. D'abord, au départ, j'ai commencé ma carrière, ce que je n'ose appeler ma carrière scientifique, en étant spécialiste des origines de Rome. C'est le sujet vers lequel m'avait orienté mon maître, comme on dit dans l'université, Pierre Grimal. Donc j'ai commencé par faire une thèse de doctorat, puis une thèse d'État sur Alba Longa, que j'ai appelé et publié sous le titre Alba Longa, histoire d'une légende. Mon premier livre s'appelait La Fondation de Rome, donc, et il a eu l'honneur de, comme je vous le disais, hors antenne, d'une très belle recension de Jean d'Ormesson. Et donc, quand vous êtes spécialiste des origines de Rome, vous êtes spécialiste d'une ville dont le territoire ne dépasse guère celui des sept collines. C'est-à-dire que pour être un bon spécialiste des origines de Rome, vous devez connaître ce site quasiment mètre carré par mètre carré. C'était donc, vous le voyez, une première inclination qui pouvait me pousser un jour à écrire l'histoire de cette ville. Le second facteur, c'est le fait que je suis arrivé à l'École française de Rome comme membre de l'école française de Rome, ut dicitur, comme on dit, come si dice en italien, à un moment qui était un moment particulier du point de vue, je dirais, de la science, de l'archéologie et de la culture générale. C'est-à-dire que dans les années, c'était dans les années 80, au milieu des années 80 à 90 du siècle précédent, on s'était rendu compte que les ruines antiques du Forum et d'autres monuments comme la colonne Trajane, etc., sous l'effet de la pollution automobile, se décomposaient, puisque le plâtre, comme vous savez, sous l'action des gaz d'échappement des voitures, tend à se transformer en plâtre. Donc, première étape, il se transforme en plâtre. Deuxième étape...
En poussière.
Deuxième étape, voilà, le vent disperse et ce plâtre qui devient poussière. Donc, il y a eu une prise de conscience, une campagne d'opinion, suite à laquelle, à partir de 1985, ou un peu avant, oui, un petit peu avant, a été votée une loi d'une ampleur impliquant des crédits d'une ampleur véritablement exceptionnelle. On critique souvent les Italiens pour dire qu'ils sont un État faible, qui n'est capable de rien faire. Eh bien, je puis vous dire que je ne connais aucun État européen. Je me limite à l'Europe et peut-être qu'on pourrait prendre une comparaison encore plus vaste, mais je ne connais aucun État européen qui ait été capable d'engager de telles sommes pour la sauvegarde et de telles sommes rapidement et concrètement pour la sauvegarde de son patrimoine monumental, en l'occurrence archéologique.
Et vous pensez que finalement les Italiens s'intéressaient aux ruines et que finalement le fait d'une ruine c'est de s'écrouler petit à petit quoi.
Enfin, oui, voilà. Mais enfin si une ruine, peut-être je ne veux pas non plus idéaliser trop les choses, ils savent bien que si les ruines tombaient vraiment en ruine, elles ne seraient plus visitées. Et donc c'est le tourisme qui est quand même une ressource essentielle pour l'Italie comme aussi pour la France, en serait atteint. Toujours est-il que pour un jeune chercheur qui avait trouvé sa voie, mais enfin qui arrivait juste à Rome à ce moment-là, tous ces monuments étaient couverts d'échafaudages. Et par le hasard des amitiés, etc., je suis monté sur beaucoup des échafaudages, qui est quand même une expérience que je pense aucun de mes collègues plus jeunes aujourd'hui ne peut faire. Qui peut aujourd'hui prendre quasi l'habitude, parce que c'était un peu le cas, de monter le soir à partir de 5-6 heures du soir sur l'arc de Septime Sévère pour aller rêvasser sur les ruines du Forum. À l'époque, il avait un échafaudage qui le permettait. Pareil pour la colonne Trajane. Je suis monté le long de cette extraordinaire frise qui représente sans doute, à mon avis, la plus belle sculpture antique et une des plus belles sculptures de tous les temps. C'était d'ailleurs la vie de Michel-Ange. Donc ce sont des expériences qui marquent. Et puis le troisième facteur qui m'a poussé à écrire ce livre, auquel j'ai voulu donner le titre tout simple finalement d'Ourps, c'est une espèce de préoccupation qui, avec l'âge, grandit en moi entre la constatation que jamais aujourd'hui la recherche sur l'Antiquité, et particulièrement sur l'Antiquité romaine, n'a été aussi pointue, aussi efficiente, aussi productive. Et il faut bien dire, je ne vais pas dire le dédain, mais le fait que la culture contemporaine, tout de même, s'est détournée de l'Antiquité. Donc vous assistez à une faille, une béance, un gouffre qui a tendance à s'élargir entre les résultats de la science et, je dirais, la culture générale, l'opinion moyenne.
Et puis, quand même, c'est toutes les études
italiennes. Donc, pour répondre à votre question, je constatais effectivement que les résultats, notamment de la science italienne, étaient absolument extraordinaires. Ce sont des choses extraordinaires, mais cantonnées dans des revues d'érudition hyper spécialisées, qu'on ne trouve que dans quelques bibliothèques en France et en Europe. Et il m'a paru intéressant d'écrire l'histoire, une histoire romaine au plein sens du terme. C'est-à-dire on écrit d'habitude des histoires romaines, mais qui se passent aux quatre coins de l'Europe que dominait alors Rome. Moi, je n'ai pas voulu sortir du pomerium. C'est une histoire romaine intramuros. Disons que j'ai voulu restituer à l'adjectif romaine son plein sens. Parce que j'ai constaté, et je m'en doutais en commençant à écrire mon livre, mais ça a été vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi et qui m'a surpris moi-même, c'est que chaque événement extérieur de ce que font les légions hors de Rome, a une répercussion édilitaire, monumentale, à l'intérieur de l'espace urbain. Et ça, ça commence très tôt et ça va jusqu'à la fin de Rome. Et étudier cette, cette relation profonde est quelque chose qui, je crois, n'avait pas été fait et sur la longue durée comme cela. Et on aboutit à une constatation assez, assez saisissante. Finalement, toute l'histoire de Rome se retrouve à l'intérieur de ces 700 hectares d'espace urbain.
Alors, c'est vrai que si les hommes de pouvoir avaient été moins orgueilleux ou avaient moins été intelligents en comprenant qu'il faut toujours signifier son pouvoir, eh bien, vous seriez, vous, beaucoup plus en défaut, peut-être, pour comprendre l'histoire de Rome. Bien sûr, il y a les fouilles, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi voir, en effet, ce qui a été érigé, ce qui a, pour la gloire de telle et telle personne. Et alors, c'était érigé très très vite, ces monuments. On a l'impression qu'on rentrait de bataille à l'extérieur. Enfin, l'extérieur, c'était l'extérieur de Rome. Ça pouvait être dans l'Italie. Et que tout de suite, il fallait montrer voilà, son grand talent, son grand pouvoir et être soi-même le héros. Quoi. Enfin, le héros en quoi? En plâtre? En marbre? En quel...
Oui, en réalité, il faut... Tout cela dépend aussi du type de vie institutionnelle et politique qui est celui de la République romaine. Et on peut penser que cela a même commencé avec ce qu'on appelle la période royale, puisque, après tout, nous croyons savoir que le temple de Jupiter, très bon, très grand sur le Capitole, tout de même le plus grand temple, un des plus grands temples du monde antique, a été érigé suite à une victoire déjà. Mais en tout cas, prenons les périodes sur lesquelles on est mieux renseigné, les périodes républicaines. Il y a un schéma qu'on retrouve, auquel vous faites allusion et qu'on retrouve toujours. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a été consul ou préteur, enfin une très haute magistrature, et après son consul, pendant ou après son consulat, il a le droit, la possibilité de commander une armée donc romaine. Il va à l'extérieur, il remporte des succès, en général. Je sais bien qu'aujourd'hui, on dit que les Romains n'ont pas cessé d'endurer des défaites. Mais enfin, à ce moment-là, j'invite chacun à regarder la carte de la Rome royale, un petit département français, et la carte de la Rome du temps d'Auguste, encore mieux celle du temps de Trajan, l'ensemble du bassin méditerranéen et même un peu plus, puisque une bonne partie de l'Europe occidentale fait partie des territoires soumis à Rome. Alors, il n'est pas tellement concevable que tout ça soit le résultat de défaite. C'est plutôt le résultat de victoire. Hein. Donc, gardons un peu de bon sens par rapport à cette mode de présenter les Romains comme des gens n'ayant enduré que des défaites. Fermons la parenthèse. Toujours est-il que une fois qu'un chef romain qui agit en tant que consul ou que proconsulé, que proconsul, a remporté une victoire à l'extérieur et dans certaines conditions, il revient à Rome, il demande à ses collègues sénateurs le droit de triompher. C'est pas une chose automatique. Il faut qu'il y ait au moins 5 000 morts et demi. Et puis c'est quelque chose qui se demande. Hein. Il faut que le Sénat vote, le ius triumphandi. Et une fois qu'il a obtenu le droit de triompher, il y a donc cette cérémonie du triomphe que tout Rome, toute la population de Rome attend, parce que c'est le carnaval de Rio, la puissance 10. Hein. Donc on fait la fête de manière démesurée sur tous les plans pendant une journée et un peu avant et un peu après. Et donc il y a la cérémonie du triomphe, bien sûr, qui lui permet d'offrir sa victoire à Jupiter, de remercier Jupiter pour cette victoire. Et après, donc première étape, victoire, deuxième étape, cérémonie du triomphe, et après, construction d'un temple. C'est la construction d'un temple qui, là, rentre pleinement dans mon sujet, bien que je me sois beaucoup intéressé à la cérémonie même du triomphe, au moins au plus important d'entre eux.
Oui, c'est festif, voilà, spectaculaire.
Exactement. Et j'ai voulu écrire véritablement une histoire urbaine, pas seulement des monuments, mais de ce qui se faisait aussi autour des monuments, notamment les grandes processions religieuses, et le triomphe en est une. Et donc, troisième étape, disais-je, construction d'un temple. Construction d'un temple, il faut voir que c'est un temple construit à la divinité qui est du choix du chef militaire en question. C'est lui qui a choisi. Alors, vraisemblablement, on devine qu'il est souvent conseillé par les pontifes. Mais c'est lui qui choisit. Et il choisit aussi l'endroit où il construira son temple. Et, comment dirais-je, vous mettez l'accent, et vous avez raison, sur la rapidité de ces constructions. Elle ne doit pas trop nous étonner, dans la mesure où, durant toute la République, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, après ça va changer, ces temples sont de proportions tout de même assez réduites. Les temples font à peu près souvent 15-20 mètres de long, vous voyez, sur une bonne dizaine de mètres de large. Ce sont des édifices qui peuvent être construits assez rapidement tout de même. Surtout qu'à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, les Romains perfectionnent la technique de construction, notamment avec l'invention du béton, qu'ils appellent « opus caementicium ». C'est-à-dire de la pierraille mêlée de chaux qu'on peut mettre en grande quantité à l'intérieur des murs de pierre qui délimitent le soubassement d'un temple, ce qu'on appelle en archéologie le podium. Et les temples romains sont en général juchés sur de hauts podiums. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de temples parce qu'il y a beaucoup de victoires. Et ces temples sont construits assez rapidement parce que n'imaginons pas, nous avons une vision fausse de l'Antiquité, n'imaginons pas des temples gigantesques. Ils deviendront gigantesques à la fin de l'Empire, à partir, disons, du 2e siècle après notre ère, mais pas avant.
Alors, on a peut-être des idées fausses, et on en a certainement, mais en même temps, ça aide Alexandre Grandazzi à aimer l'Antiquité, à aimer Rome. On a pu commencer l'apprentissage de son plaisir de lecture par les petits livres, vous savez, contes et légendes chez Nathan. Vous avez dû lire le dictionnaire de Platner et Ashby.
Oui,
j'imagine.
Oui,
enfin, vous en parlez en tout cas. Et puis plus récemment, c'était dans les années 80, je crois, au siècle dernier, le lexicon.
Topographicum Urbis Romae.
Voilà. Urbis Romae.
À partir de 1993 jusqu'à 1999, six volumes très
voilà.
denses.
Alors dans les idées fausses ou légendaires, encore que le terme légendaire ne veuille pas dire toujours mensonger, on oublie Romulus, on oublie l'agriculteur qui trace son sillon sur le mont Palatin sous l'œil bienveillant de Jupiter, et on fait comme la naissance, la fondation de Rome, quand donc?
Ah.
Le livre fait 700 pages, hein, ou 800.
768.
Donc, voilà, donc je...
Effectivement, la question de la fondation de Rome est une question importante. Je reviens justement d'un colloque en Calabre où mes collègues italiens m'avaient invité à parler, m'avaient dicté suggéré le titre de ma communication qui était « La Fondazione di Roma », vous voyez, oggi, donc aujourd'hui. Résumons...
Domani.
Voilà. Ça évolue. Oui. Mais ça évolue dans un sens tout de même de retour à une certaine confiance dans la tradition littéraire, ce qui étonne beaucoup d'historiens formés à la doctrine constituée au XIXe siècle, à savoir qu'il n'y avait rien de vrai dans les traditions romaines sur la période royale, particulièrement sur la première partie de cette période. En réalité, il faut revenir à cette condamnation, sans bien entendu donner crédit à tous les détails de la légende antique. Alors pour répondre à votre question, qui est très vaste, mais en deux mots, je dirais, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que le site de Rome, je dirais, entre en fermentation, enfin c'est peut-être pas une bonne expression, entre en processus de densification, constatable archéologiquement, à une période très antérieure à tout ce qu'on a pu croire jusqu'à une époque récente. C'est-à-dire que vous avez déjà un petit point fortifié, qui est fortifié, un petit oppidum, vers le 17e, peut-être même avant, 16e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est encore nouveau, et ce que je viens d'apprendre en Calabre, là, à mon colloque, où il y avait un spécialiste de la proto-histoire, c'est qu'il y a déjà cette densification très notable du site romain dans son ensemble pour la période, pour les néolithiques. Ça commence vers 2500-2000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Latium, et particulièrement la région autour de Rome, est la région la plus dense, une des régions la plus dense déjà dans tous les néolithiques européens. Et ça, c'est une donnée appuyée sur des centaines des dizaines de fouilles avec des centaines et des centaines de résultats qui sont pratiquement tous inédits, voyez.
Donc, est-ce une population qui vient d'où? De l'Inde?
Ça on ne sait pas. On n'a que les produits archéologiques. Mm-hmm. Mais on constate par exemple qu'il y a de l'obsidienne, on constate qu'il y a de l'ambre, on constate qu'il y a donc des produits qui viennent de la Baltique, d'autres qui viennent de l'Afrique, voyez, subsaharienne. Ça pose quand même des questions. Donc dès 2500-2000 avant Jésus-Christ, le site romain commence à montrer des signes d'une densification hors norme. Ça va continuer pendant l'âge du bronze et ça démarre vraiment à partir, comme je le dis dans mon livre, du 15e siècle avant Jésus-Christ, avec la constitution d'un point d'appui fortifié, sédentaire donc, au moins une partie de l'année, sur le Capitole, la partie qui domine le Tibre. Et à partir de là, on peut dire, et je ne suis pas le seul à le dire, que nous assistons à l'entrée du site romain dans ce que les spécialistes appellent le proto-urbain. Il y a un petit jargon d'archéologue. Proto-urbain, c'est ce qui va devenir un jour urbain. Pré-urbain, c'est ce qui ne deviendra jamais urbain. Oui, c'est complètement idiot comme terminologie, mais c'est comme ça. Le pré-urbain, c'est ce qui ne deviendra jamais urbain, dans la terminologie actuelle, que j'ai adoptée en l'expliquant à mes lecteurs. Donc, 18-16e siècle avant Jésus-Christ, entrée du site romain dans le proto-urbain. Un point d'appui existe, et un péage, sans doute, est perçu pour les troupeaux qui, venant de la Sabine, ont besoin d'aller vers le pâturage littoraux, n'est-ce pas, pour le sel. Et à ce moment-là, ce péage enrichit ceux qui contrôlent la colline du Capitole, n'est-ce pas. Et donc, ça augmente d'autant plus la prospérité du site des sept collines, qui pour l'instant est surtout limité à la colline du Capitole. Et puis, 9e siècle, densification sur le Capitole, mais aussi désormais sur le Palatin. Le Palatin est-il unifié? Je ne le crois pas, mais enfin, il est de fait qu'il y a des signes d'habitat, de petits villages qui sont désormais sur le Palatin, qui a, par rapport au Capitole, l'avantage d'être sur une colline beaucoup plus étendue. La vallée du Forum aussi. 9e siècle, on voit apparaître des cabanes sur le Quirinal. Et puis, milieu du 8e siècle, et là je parle de l'archéologie, pas de la tradition littéraire.
Pas de la Louve.
Non. Milieu du 8e siècle avant notre ère, à quoi assiste-t-on? Érection d'un mur au moins sur la partie qui regarde le forum, au pied du Palatin.
Donc naissance de la ville. Si on borne,
on invente
la ville.
C'est ce que disait déjà Walter Benjamin. Il disait la ville, c'est les limites. Ben, elle existe. À partir de là, il y a une limite qui est plus symbolique visiblement que réelle, parce que c'est pas un mur très très impressionnant, mais c'est indiscutablement un mur. Et on le sait depuis 2 ans, il y a eu un colloque sur les murs dans l'Italie centrale. Et chose nouvelle, on a vu apparaître des parallèles. Et ce qui compte en archéologie, c'est de pouvoir établir des séries. Or, maintenant, il a des équivalents dans la région, si vous voulez, ce mur. Donc, vous avez construction d'un mur, vous avez construction d'un sanctuaire. Là où il y aura le sanctuaire de Vesta, quelque chose commence à se passer à partir du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Quelque chose qui est encore en argile. Ça vient d'être publié l'an dernier et j'ai pu parler avec certains des fouilleurs. C'est des choses qui sont fragiles, qu'on n'aurait pas pu identifier peut-être il y a quelques décennies. Ce sont des murs d'argile, mais il se passe quelque chose en 700, vers 750, 730 avant Jésus-Christ, au sanctuaire de Vesta. Et troisième chose, au Comitium, un peu plus haut vers le Forum, au pied du Capitole, vers 720, 700 avant Jésus-Christ, c'est la date du premier pavement du Comitium. Alors à tous ceux qui m'écoutent et qui ont appris dans leur jeunesse et qui voient encore parfois écrit dans des livres actuels « Premier pavement du Capitole vers 625, 620 avant Jésus-Christ », je dis non, la date actuelle c'est un siècle plus tôt, c'est 720, 700 avant Jésus-Christ. Donc voyez, est-ce qu'il n'y a pas eu une fondation qui, une fois pour toutes, a tout réglé? Ça évidemment c'est une vision mythique. Et il n'y a pas eu non plus une fondation qui s'est établie dans un désert. Là aussi, c'est une vision mythique. Il n'y a pas eu non plus de Louve. Ça, c'est une vision mythique, peut-être totémique. On peut y revenir si vous voulez. Mais il y a eu, dans l'espace sans doute d'une génération, c'est pas beaucoup une génération, 30 ans, une transformation que j'appelle la métamorphose de l'hypercentre. Et c'est cela, la fondation de Rome.
Alexandre Grandazzi, vous reconnaissez évidemment la musique de Nino Rota du film Fellini-Roma, c'est la musique du générique.
Oui.
Parce qu'on pense à ces, vous souvenez, enfin tous ces le vent qui entre comme ça. Oui. Je crois qu'on construit le métro, enfin
parce que ça, Rome, oui, on construit le métro et apparaissent des fresques
magnifiques
qui vont se dissoudre à l'air libre en quelques heures. Et la dernière, je crois me souvenir, ça fait longtemps que je n'ai pas revu ce film magnifique, mais je crois me souvenir que la dernière image du film, c'est on voit les fresques qui achèvent de se de se déliter.
Oui, avec une espèce de sourire.
À l'air libre, voilà, exactement.
Alors, le Urps, c'est le nom de votre gigantesque, enfin on ne dit pas gigantesque pour un livre, on dit volumineux livre.
Monumental.
Monumental, voilà, monumental, mais qui ne s'écroule pas. Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, publié chez Perrin. Urps, donc c'est la ville, c'est Rome, puisque nous sommes dans une nuit italienne, mais Urps, ce n'est pas un mot latin.
Si, alors, c'est un mot...
Bah, écoutez, comment ça, vous dites le contraire dans votre livre? Vous dites que c'est étrusque, non? Ou j'ai mal lu?
Non, non, oui.
Non. Ah, j'ai mal lu, alors.
Pardonnez-moi, peut-être... Oui. Ou alors, peut-être me suis-je mal exprimé, mais...
Racontez-moi.
C'est vrai qu'on a cru pendant longtemps, c'est ce que je dis, en fait, que c'était un mot étrusque.
Ah.
Pendant très longtemps, on a affirmé que Urps, dont l'étymologie n'était pas connue, était un mot étrusque. Ça prouvait donc que Rome avait été fondée, n'avait pu exister en tant que ville, qu'avec les étrusques. Or, les étrusques, on sait... Quand ils sont arrivés à Rome, c'est au fin 7e, 6e siècle, surtout avant notre ère.
Ils étaient très proches. Il y a d'autres villes qui auraient pu devenir aussi la capitale.
Veii n'est qu'à 17 km du Forum.
Oui, oui. Hein.
Et donc, puisqu'on disait, puisque le mot qui désigne Rome dans son urbanité même est étrusque, ça prouve bien que Rome n'est devenue une ville qu'avec les Étrusques, donc au 6e siècle avant notre ère, et non pas au 8e avant notre ère. Vous voyez, c'était un argument, un de plus, pour refuser toute historicisation possible à la légende de la fondation de Rome, à laquelle je n'ai pas limité mon livre, je le dis tout de suite. Mais il s'est trouvé qu'à partir des années 2000, et j'ai essayé de tenir compte de cette découverte, dans des articles scientifiques, mais dont j'ai mis la substance dans mon livre, il s'est trouvé que les linguistes, ce que je ne suis pas, les spécialistes de linguistique comparée, ont établi, et ils sont d'accord entre eux, ce qui est assez rare quand même pour être noté, ont établi que le mot « urps » est d'origine indo-européenne. Et un de ses ancêtres serait repérable dans une tablette cunéiforme trouvée dans la capitale hittite du roi Mursavili II, je crois. Et cette expression qu'on retrouve sur une tablette cunéiforme qui a donné le mot urps, enfin qui est de la même famille, c'est l'expression warpa, V-A, qui s'écrit W-A-R-P-A, et varpa dai voudrait dire, et c'est quand même assez fascinant parce que c'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas moi qui le dis, je vois ça écrit dans les travaux des linguistes, voudrait dire tracer un cercle consacré. C'est assez prodigieux quand vous pensez que la fondation de Rome, telle que la retrace la tradition littéraire romaine, c'est Romulus qui fait un cercle autour du Palatin avec une charrue. Hein, c'est le fameux sillon primordial, sulcus primigenius. Alors, donc le mot urps, oui, pour répondre à votre question,
est latin,
d'origine indo-européenne. Il n'y a donc plus aucune raison qui force à en déplacer la chronologie vers le 7e, 6e siècle avant notre ère.
Alors, ville royale, ville libre, ville universelle, mais aussi ville menacée. Parce que, alors, les lecteurs d'Astérix, que nous sommes tous, savent qu'en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Vous le saviez aussi, vous, Alexandre Grandazzi?
Oui, oui, ouais, je crois le savoir, oui. Ouais. Alors, ça me rappelle quelque chose.
À propos d'Astérix, on peut signaler un livre amusant et instructif qui signé Bernard-Pierre Melun, qui est publié au Chêne et qui a pour titre « Les vérités historiques expliquées, vrais mythes et fausses histoires ». Alors, parce que tout n'est pas historiquement juste dans les albums des aventures d'Astérix. Goscinny et Uderzo le savaient, s'en riaient, s'en moquaient. Mais en tout cas, c'est un livre qui est très amusant et historiquement vraiment intéressant. Bon, alors, tout n'est pas faux dans Astérix, tout est vrai dans Urps que vous publiez, Alexandre Grandazzi, parce que je dis les Gaulois qui sont occupés par les Romains, mais ce qu'on sait moins, c'est que les Gaulois ont occupé Rome et bien avant, c'est-à-dire que s'il y avait des irréductibles, c'était des irréductibles romains. Sur le Capitole.
Oui, et d'ailleurs, pour faire le lien avec votre question, c'est un de mes grands étonnements, ça a toujours été un de mes grands étonnements que les auteurs d'Astérix n'aient pas fait allusion à cette occupation de Rome en 390-387 avant Jésus-Christ par des bandes gauloises, fait qui est absolument reconnu comme historique par tous les spécialistes. Je ne connais aucun spécialiste ou contemporain ou antérieur, disons depuis le début du 19e siècle, qui ait cherché même à démontrer que Rome n'a pas été prise par les Gaulois au tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et cela pour une raison très simple. Il y a deux raisons en réalité. La première, c'est qu'on a des fragments d'auteurs grecs qui sont très proches de l'événement. Et qui, la seule phrase, non, pas Polybe, non, Polybe, il est bien plus tard, mais des auteurs comme Théopompe de Chios, enfin des, ou Aristoxène, enfin pas des auteurs très, comment dirais-je, très connus et qui ne sont pas, on aurait du mal à les mettre sur sa table de chevet parce qu'il reste que des fragments. Mais justement, souvent, il reste le fragment qui concerne la prise de Rome. Parce que ça, c'était tellement exceptionnel que des auteurs antiques qui ensuite connaissaient bien Rome, éventuellement des Romains, les ont cités. Et puis, on sait que Aristote, il faisait allusion. Alors, Aristote, c'est la fin du IVe siècle, mais c'est pas encore très très loin de l'événement. Et Aristote, il faisait allusion dans un de ses cours. Donc, ça, c'est la première raison pour être sûr de l'événement. Et la deuxième, c'est que cet événement est tellement au désavantage des Romains, pour le coup, c'est une défaite.
Oui.
Ça. Et il est tellement, et on sait que nos Romains, ils avaient tellement, ils étaient très très chauvins dans la manière de raconter leur passé. Et pour qu'ils aient gardé, pour qu'ils n'aient pas cherché à maquiller, à transvestir, à cacher cette honte de l'occupation de leur ville par les Gaulois, c'était qu'ils ne le pouvaient pas. Un, c'était vrai, ça s'était passé comme ça, et tout le monde le savait.
Et puis eux, ils sortaient d'une grande victoire sur une ville voisine.
Sur Veii, voilà. Qui était une victoire immense, parce que il faut bien voir que la victoire sur Veii, donc vers 396 avant Jésus-Christ,
oui, 3-4 ans avant l'arrivée
voilà,
des Gaulois,
6 ans avant l'arrivée des Gaulois, enfin si on garde la chronologie de Tite-Live, en tout cas quelques années seulement, cette victoire avait abouti à d'un seul coup doubler le territoire de Rome. Donc vous imaginez ce que c'est pour un État, une principauté, je préfère plutôt dire principauté moi que cité qui est trop restreint et cité-État qui est la formule usuelle parmi mes collègues. Qui est peut-être un peu trop pompeuse. Principauté, voilà, ces villes de l'Antiquité, je les appelle des principautés. Eh bien, vous imaginez ce que c'est pour cette principauté romaine d'un seul coup doubler son territoire. Et puis, 6 ans après, défaite affreuse devant les Gaulois et occupation pendant 6-7 mois, disent les textes, de la ville. Et je suis persuadé pour ma part que c'est la conjonction de cette victoire sur Veii qui a montré aux Romains de quoi ils étaient capables. Et quelques années à peine après de la défaite devant les Gaulois et de l'occupation de Rome par les Gaulois, qui a créé, c'est ce lien, si vous voulez, entre une défaite sans précédent et une victoire jusque-là sans exemple, qui a créé le ressort qui a lancé les Romains dans la conquête du monde extérieur de manière définitive. Parce que ils savaient désormais ce dont ils étaient capables grâce à Veii, et ils savaient ô combien ce qu'ils ne voulaient plus jamais subir grâce à cause de l'occupation de Rome par les Gaulois. Et la conjonction de ces deux événements a été comme une espèce de rapprochement de deux produits chimiques qui produisent, vous voyez, une énergie inconcevable qui va être l'énergie de la conquête romaine pendant plusieurs siècles.
Est-ce qu'ils avaient brûlé Rome, les Gaulois ?
Oui, alors les Gaulois, si vous regardez Tite-Live, ils vous parlent d'un grand incendie. Un très grand incendie contre lequel plusieurs collègues et moi-même, nous avons écrit des lignes définitives pour dire qu'il n'y avait pas du tout eu d'incendie. Mmh. Et puis, il se trouve que dans les années 2005-2011, il y a eu des fouilles dans le Forum de César. Alors, Forum de César qui présente la particularité de n'avoir pas été urbanisé depuis César pour ce qui est de la place centrale. Et on a retrouvé quoi ? On a retrouvé notamment deux grandes maisons archaïques, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, on peut dire presque des hôtels particuliers, enfin des grandes maisons, qui portaient des traces d'incendie très très nettes du début du 4e siècle. Donc il n'y a peut-être pas eu le grand incendie ravageur type incendie de Néron, mais certainement les Gaulois ont mis le feu à quelques quartiers. Et il est fascinant de constater, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en lumière dans mon livre, parce que la longue durée que je prenais comme vecteur d'observation me le permettait, il est fascinant de constater que César, victorieux de Vercingétorix, conquérant de la Gaule, et ayant reporté, comme chacun sait, la victoire d'Alésia, César choisit d'implanter son complexe monumental qui va changer la physionomie du centre de Rome à l'endroit même où la tradition disait, et nous savons par l'archéologie maintenant que ça risque d'être vrai, que les Gaulois avaient implanté leur campement quand ils avaient occupé Rome. Vous voyez, c'est une manière de dire à l'opinion romaine, moi je suis le vainqueur des Gaulois et vous allez avoir un magnifique monument bâtiment construit avec l'argent gaulois, la même où ces insolents avaient osé occuper notre ville il y a quelques siècles.
Mais de toute façon, quel était l'intérêt des Gaulois de brûler Rome? Parce que ce qu'ils voulaient, c'était ils avaient aucune envie de rester apparemment, puisqu'ils sont
bien
partis.
Entendu. C'est pour ça que je continue à ne pas
croire. Donc il vaut mieux demander de l'argent.
Vous avez tout à fait raison. C'est ou l'incendie ou la rançon. Les deux traditions ne peuvent pas être vraies en même temps. Parce que si vous exigez une rançon, c'est une rançon. Pourquoi les Romains vont-ils donner une rançon énorme en plus aux Gaulois? Eh bien, c'est pour que les Gaulois partent sans ravager totalement leur ville. S'ils la ravagent totalement, c'est pas la peine de donner la rançon. Donc, la tradition sur la rançon, elle est très certainement véridique parce qu'elle est pleine de détails qui ne trompent pas et elle est estimée comme telle par tous les historiens modernes. Et donc, elle implique qu'il n'y a pas eu un grand incendie qui aurait tout ravagé. Mais il y a eu des incendies, on va dire, locaux.
Tant mieux, parce que ça permet de trouver des traces.
Exactement.
L'historien que vous êtes, oui, Alexandre Grandadier, a besoin de ça.
C'est vraiment la solution parfaite. Hein,
oui,
voilà.
Oui.
Un incendie, mais pas trop délimité.
Vous nous avez dit, Alexandre Grandadier, dans Urps, donc publié chez Perrin, que vous avez traité quoi, 1000 ans à peu près, plus.
Écoutez, j'ai commencé.
Ça se termine au 5e siècle.
Oui, j'ai commencé d'abord par quelques pages pour expliquer la formation géologique du site de Rome.
Oui, avec des cartes très précises.
Voilà. Il m'a paru intéressant d'expliquer au lecteur pourquoi Rome est une ville sur sept collines. Les fameuses collines, elles sont plus que sept d'ailleurs, mais c'est quoi ces collines, géologiquement? J'ai voulu le leur expliquer. Et puis ensuite, je commence très tôt, mais finalement, je me dis que j'ai pas commencé assez tôt, compte tenu de ce que j'apprends à propos de les néolithiques, notamment. Mais j'ai commencé à peu près au XXe siècle, avant Jésus-Christ. Alors, je survole. Hein, je mets l'accent un petit peu sur la constitution du bourg fortifié vers 18e, 16e siècle avant Jésus-Christ sur le Capitole. Et puis j'arrive au 10e, 9e siècle qui ont droit à un chapitre et à la fondation de Rome et après, n'est-ce pas? Voilà.
Mais alors, vous terminez à quoi? Au 4e,
5e? J'ai terminé à la mort d'Auguste.
À l'apogée.
Parce que... D'abord, il y a une question de... Je ne voulais pas infliger à mes lecteurs une... J'arrivais déjà à la page 800 avec Auguste, donc il m'a semblé que peut-être il ne fallait pas trop demander aux futurs lecteurs de mon manuscrit. Mais plus sérieusement, je me suis arrêté à Auguste parce que... au moins pour l'instant, parce que je ne vous cache pas que je vais continuer cette biographie urbaine. Mais pour l'instant, je me suis arrêté à Auguste parce que tous les observateurs et tous les historiens le disent. Il a remodelé la physionomie entière de l'espace urbain de Rome et il lui a donné la physionomie qu'elle allait avoir pour les siècles à venir. À la fois, il a restauré un grand nombre de monuments républicains et en même temps, il a remodelé la ville et il lui a donné une configuration qui serait celle qu'elle aurait durant les siècles de l'Empire. Donc ça m'a paru un bon point d'arrêt que de terminer ce livre à la mort d'Auguste, c'est-à-dire après ce que j'ai appelé la grande transformation augustéenne. Et j'ai repris ce mot transformation exprès parce que c'est le mot qu'on employait pour Haussmann et Paris.
Oui.
On parlait de la transformation.
Au 19e.
Voilà, et c'est la transformation qui s'opère sous Auguste qui m'a paru être une bonne étape.
Et vous le terminez en hauteur, c'est-à-dire que là aussi, vous le commencez en racontant un voyage comme on en fait à Rome
oui.
De temps en temps, comme ça.
Oui.
Et on va sur une colline, on observe, et puis là c'est ce que vous faites. Et est-ce que vous faites aussi en fin de l'écriture de cet essai, enfin
oui.
L'essai de cette biographie de
oui.
Rome.
Mais écoutez, bravo, parce que c'était une petite autoréférence que j'avais ménagée entre le début et la fin. Effectivement, au début, je me mets en scène, enfin, étant sur le Capitole à l'occasion d'un colloque et m'interrogeant sur la manière dont je vais mener mon entreprise. Et à la fin, j'imagine un Romain de l'Antiquité montant sur le même Capitole et regardant le panorama de cette Rome complètement transformée par Auguste. Et à ce moment-là, je décris pas, mais je mentionne tous les monuments que cet observateur pouvait voir. Et je m'inspire là de grands panoramas, on disait cela, fait au 19e siècle, notamment en Allemagne, vers la fin du 19e siècle, un magnifique panorama de la Rome antique que j'ai, et je le dis, que j'ai repris pour cette séquence finale.
Merci Alexandre Grandazzi. Donc, Urps, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, c'est publié chez Perrin. La nuit italienne se poursuit.
Merci à vous.